French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning, y'all.
Cet épisode a reçu le soutien d'Agora Expat. Vivre aux États-Unis nécessite une assurance santé adaptée. Mais trouver la solution parmi toutes les offres peut s'avérer être un vrai casse-tête. Budget, besoins, franchise, difficile de tout combiner. Ne perdez plus votre temps, Agora Expat sélectionne et compare pour vous les meilleures solutions d'assurance santé. Offres personnalisées, accompagnement sur mesure, devis et conseils gratuits, Agora Expat est le courtier référent de la communauté francophone expatriée aux États-Unis. Retrouvez plus d'informations sur agoraexpat.com. Et maintenant, place à l'épisode.
Le dimanche, quand je reviens, parce que c'était à 1h30 en bus de Québec, je reviens pour prendre mon bus et là, j'ai un message des colocs qui me disent « Écoute Mel, on a réfléchi, que ça soit pour ton volontariat avec les chiens ou le fait que tu travailles, ça va pas être possible pour nous parce que tu risques de nous ramener le coronavirus à la maison. Donc en fait, on veut pas que tu reviennes à l'appartement. »
Un Noël sous la neige. Voilà qui fait rêver Mélanie depuis longtemps. Alors quand sa demande de PVT est acceptée, la voilà sur Google à rechercher une destination au Canada qui lui garantira de vivre ce Noël blanc. La voilà qui travaille sur le célèbre marché de Noël de la ville de Québec et qui vit en colocation avec deux Françaises à deux pas de la vieille ville. Si la vie en colocation ne la ravit pas complètement, Mélanie et son optimisme caractéristique se concentrent sur ce qui va bien. Elle aime sa vie à Québec et c'est bien essentiel. Sauf qu'en mars 2020, alors qu'elle rentre de week-end à la campagne dans un chenil de chiens de traîneau, elle apprend que ses colocataires veulent mettre ses affaires dehors et ne plus la voir de peur d'attraper le coronavirus. C'est alors que tout s'enchaîne très vite pour Mélanie qui va devoir repenser intégralement sa vie à l'étranger. Jusqu'à une nuit où tout bascule. Ah oui, moi c'est Anne-Fleur Andrely, vous écoutez French Expat, un podcast de French Morning.
Bonjour à tous, je m'appelle Mel, je suis originaire de Bordeaux, dans le sud de la France. C'est connu pour le vin, donc ça généralement ça les aide à resituer un petit peu. Et que j'ai 33 ans et voilà, généralement je voyage seule. donc là actuellement je suis bien en France pour quelques temps encore. Et le dernier emploi que j'ai fait c'était d'être chauffeur-livreur. En France, ça a été une grande découverte parce que le fait de conduire, ça permet d'être un peu en voyage. Donc, c'est quelque chose qui m'a plu. Et sinon, avant de partir en voyage, j'avais fait un BTS banque. Et donc, j'avais commencé une carrière dans la banque. Et après, la suite, ça a été les voyages et la banque, on a laissé de côté. Alors, le Canada, je suis partie en octobre 2019. Et avant la pandémie, on savait pas du tout que ça allait arriver. Et je suis partie le 26 octobre. Je suis partie directement de Bordeaux. Il y avait encore des vols Bordeaux-Montréal en direct. Je suis arrivée à Montréal, mais avec un point de chute à Québec. J'allais m'installer à Québec. Et c'est juste qu'il y avait un concert qui m'intéressait à Montréal. Donc, je me suis pris une petite semaine pour faire tous les papiers administratifs à Montréal, plus le concert avant de monter à Québec. Moi, je suis partie dans le cadre d'un PVT, donc le permis vacances-travail, qui était et qui est, je pense, encore toujours sur tirage au sort. Je me suis inscrite si je me trompe pas, c'était le 6 décembre 2018. Et j'ai eu la chance d'être tirée assez rapidement. J'ai été tirée au sort le 29 janvier 2019. Et j'avais pour objectif dans ma tête le projet du Canada, parce que je suis très attirée par ce pays qui est un pays du Grand Nord pour moi. Et c'est vrai que je m'étais dit octobre parce qu'en fait, c'était l'année des 30 ans de toutes mes copines et de moi-même. Et je m'étais dit, je fais les 30 ans de tout le monde, comme ça, j'ai pas d'événement que je manque. Et je pars après. À ce moment-là, j'avais un travail et un appartement à Bordeaux. j'ai tout quitté, j'ai tout vendu mes meubles parce que dans ma tête, je me disais que je resterai sûrement après les 2 ans de PVT au Canada. Et mon objectif en partant au Canada, moi, ce que je voulais, c'était vraiment la neige. Au début, j'ai été au salon du PVT à Paris. J'ai échangé avec la représentante du Yukon. Il y a eu vraiment une attirance pour le Yukon et je lui dis mais je suis pas sûre de mon niveau d'anglais, je parle pas très bien anglais. Et elle me dit ah mais t'inquiète pas, enfin les Français vous êtes toujours un peu frileux sur ça, mais il y a pas d'inquiétude à avoir, vraiment vous débrouillez pas si mal. Donc elle m'a donné un contact en off pour un hôtel qui allait ouvrir en février 2020 et elle me dit bah tu peux déjà postuler, comme ça te fera un emploi. Et au moins, tu verras. Donc, je les contacte et ils m'ont demandé de faire une interview. Et en fait, j'ai paniqué de mon niveau d'anglais. Donc, j'ai annulé l'interview et je me suis rabattue sur le Québec. Pour choisir ma ville de point de chute dans le Québec, j'ai regardé en fait les probabilités de neige à Noël parce que j'adore la neige. Et à Montréal, donc, ils annonçaient 67% de probabilité d'un Noël blanc et 92% à Québec. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, ben, ça sera Québec.
Je n'avais jamais entendu, c'est génial. Donc, tu as choisi où est-ce que tu allais vivre en regardant les probabilités de neige pour le jour de Noël. Mais c'est pas bête du tout.
C'est ça.
Tu viens pour faire un PVT, tu choisis de t'installer dans la ville de Québec. Qu'est-ce que tu vas faire de ton quotidien, du coup ?
Vu que j'adore Noël, je me dis, je vais arriver, donc j'arrivais le 3 ou le 4 novembre à Québec, et je me dis, ben, je vais me trouver un travail en rapport avec Noël. Donc je me suis dit, soit je serai lutin du Père Noël, ou soit je serai vendeuse sur le marché de Noël du Québec, qui est un marché de Noël très connu. En me renseignant, donc les jobs de lutin de Père Noël, c'est que des contrats étudiants, donc je pouvais pas y prétendre. Donc après, j'ai démarché via Indeed depuis la France, les vendeurs sur le marché de Noël de Québec. Et donc là, j'ai été recrutée par les Bougies de Charroux, qui sont une entreprise française et qui vendent des bougies artisanales qui sont faites en France. On a fait l'interview en français parce que ben, c'est des Français qui tiennent la boutique à Québec. Et donc, ça a matché et j'ai travaillé. Donc, mon premier emploi, c'était de faire vendeuse sur le marché de Noël de Québec en vendant des bougies. Donc, voilà, avec tous les inconvénients que ça comporte, à savoir notamment le froid où on est toute la journée dehors vu qu'on est sur le marché de Noël.
Au final, c'est donc plutôt une bonne nouvelle. Mélanie a son PVT, son permis vacances-travail, elle a son emploi, il ne lui manque plus qu'un logement.
À distance, toujours via Facebook, j'avais trouvé une coloc avec deux Françaises. C'était un appartement qui venait d'être rénové dans le centre-ville de Québec. Donc pour ceux qui connaissent un peu, c'est dans la haute ville, juste à côté des remparts. On s'installait toutes les trois, donc dès que début novembre, on avait l'appartement et moi, je commençais mon job en même temps. Donc au début, le job, c'était début novembre dans la boutique pour me formaliser parce que ben, y a des textes à apprendre et pour connaître et le texte en français et en anglais. Et on commençait le marché de Noël, si je ne me trompe pas, aux alentours du 24-25 novembre. Donc, ça a été vraiment directement mon premier job et je n'ai pas eu le temps de visiter Québec ou quoi que ce soit, ça a été vraiment direct le job d'entrée, quoi. Donc voilà, j'ai été sur les Français à Québec et j'ai trouvé ces filles-là qui m'avaient l'air sympathiques. On avait fait un zoom pour se contacter, pour ben, voir si le feeling passait. Ça avait l'air de matcher et donc ben, je me suis lancée avec elles.
Voilà donc Mélanie arrivée à Québec avec toute la logistique qui convient. Le logement, l'immigration, le boulot, tout va bien. Sauf que rien ne s'est passé comme prévu.
Sur le papier, ben, elle paraissait très bien. Donc, il y en avait une des deux qui avait un fort caractère et qui s'était autoproclamée chef de la coloc. Et la deuxième qui était en fait juste totalement soumise à elle. Et donc, tout ce qu'elle disait, c'était parole d'évangile. En plus, ben, elles étaient plus jeunes que moi parce que moi, je suis partie là-bas, ben, j'avais 30 ans et elle devait avoir 25 ans par là. Au début, ça a commencé un peu par certaines règles de la coloc. Donc, on en avait déjà discuté, mais bah, plus les jours passaient, plus elles ajoutaient des règles. Et notamment, je ne sais pas si c'est comme ça aux États-Unis, mais au Canada, dans les salles de bain, quand on allume la lumière, il y a la ventilation qui se met en route en même temps. Donc, ça fait du bruit parce qu'il n'y a pas de fenêtre. Donc, bah, pour l'humidité, voilà. Ça a commencé comme ça. Moi, je finissais le marché de Québec, travaillais du jeudi au dimanche. Et elles étaient étudiantes, donc lundi, vendredi. Et le samedi soir, quand je terminais à 22h le marché de Noël, après avoir passé la journée à moins 20, j'aimais bien me prendre un bain chaud pour me réchauffer. Et sauf qu'en fait, ça a commencé avec des messages. Ça serait bien que tu éteignes la lumière quand tu prends ton bain parce que, en fait, ça fait du bruit et nous, on aimerait bien dormir. Donc, je savais qu'on n'était pas des grandes copines, mais on se respectait. Enfin, moi, je les respectais totalement. Après, elles m'ont fait un deuxième coup qui a eu du mal à passer. C'est qu'on avait décidé de faire Noël entre nous le 23. Et le 24, on a fait un Noël solidaire avec tous les gens qui étaient seuls de Québec. Et le 23, on s'était dit, ben, on s'offre des cadeaux entre colocs. Et sauf qu'en fait, ce qu'elles se sont amusées à faire, et moi qui m'a beaucoup blessée, c'est qu'en fait, elles m'ont fait un carton avec plein de cadeaux. Et sauf qu'en fait, ben, c'était que des cadeaux vides. Et du coup, c'était pas drôle du tout. Donc, ça a créé un gros malaise. Et elle a rigolé et j'étais, mais enfin, c'est pas drôle en fait de offrir des boîtes de coquillettes vides ou quoi que ce soit à quelqu'un. Enfin, oui, mais c'était pour la blague. Bah, c'est pas une bonne blague, en fait, pas le soir de Noël. Moi, bon, après, j'avais décidé, je m'étais offert Noël les premiers de l'an à New York. Donc, je suis partie toute seule me faire ce cadeau-là. Et heureusement, parce que c'était génialissime et j'ai passé des super vacances. Et donc, c'était 1er janvier 2020. Donc, je suis encore plus contente de l'avoir fait quand on sait ce qui arrive derrière, de m'être offert ce cadeau. Et quand je suis revenue, je sentais que j'étais pas très bien dans la coloc, mais j'avais pour objectif, dans tous les cas, de partir en juin parce que je voulais traverser le Canada et faire ma deuxième année de PVT dans l'Est, donc dans la partie anglophone. Donc, je me disais, allez, Mel, accroche-toi.
Donc, du coup, tu rentres en te disant, j'ai encore 6 mois à faire avec elle, mais en te disant, je vais le faire, quoi. Enfin, je veux dire, t'es quand même courageuse parce que t'es dans un milieu limite hostile, quoi.
C'est ça. Mais je me dis, voilà, enfin, je me suis fait mon cercle social en dehors d'elle. Je suis, enfin, voilà, je suis quelqu'un de courageux et d'indépendant. Dans tous les cas, voilà, c'est que 6 mois. 6 mois, ça passe extrêmement vite. Donc, vas-y, fonce, sachant que ben, mon emploi au marché de Noël s'était terminé, donc il fallait recommencer tout le processus de recherche d'emploi, etc. Et donc, voilà, ces filles-là à la maison. Début mars 2020, on commence à entendre parler de la pandémie du Covid. Ça bougeait plus en France ou en Europe que nous, le Canada, on était un peu détachés de tout ça. Donc, on regardait ça avec beaucoup de recul. Et il y a la mère de la plus têtue qui vient nous voir parce qu'elle dit « Oui, vu que ça commence un peu à puer en Europe, moi, je veux voir ma fille, donc je viens. » Elle arrive, je pense qu'elle est arrivée aux alentours du 10 ou 15 mars 2020. Donc, elle vient chez nous et nous, on l'accueille déjà en disant « Ouais, c'est un peu dérangeant dans le sens où... Si vraiment en France, il y a des cas, peut-être que c'est elle qui va ramener ça à Québec. Parce que nous, on n'avait vraiment pas de cas à ce moment-là. Après, c'est sa maman. Voilà, on respecte. C'est une maman. Enfin, donc, on l'accueille. Et c'était l'anniversaire de sa fille en plus. Donc, on part faire l'anniversaire de sa fille. On loue un chalet avec tous les amis de Québec, etc. On part faire le week-end au chalet. Et elle, le dimanche, elles avaient prévu de faire du chien de traîneau. Moi, vu que je m'entendais pas trop avec elle, je voulais pas faire cette activité-là avec elle. Et moi, je me suis réservé une autre randonnée, mais je les ai accompagnés, parce que j'adore les chiens. Et donc, je les ai juste accompagnés à voir les chiens de traîneau. Et j'ai beaucoup parlé avec le monsieur du chenil en lui disant « Ah, comment ça se passe dans ton chenil, etc. Est-ce que des fois, tu prends des volontaires ?» Il me dit « Oui, oui. » Et je lui dis, je crois que ça m'intéresserait bien de venir faire du volontariat chez toi les week-ends. En fait, je travaille pas le week-end, donc j'avais trouvé un nouvel emploi dans la vente et on travaille pas les week-ends, donc je veux bien venir. Et il me fait, d'habitude, c'est pas le format que je prends comme volontaire, mais pourquoi pas, t'as l'air intéressé et motivé, donc si tu veux, on fait comme ça. Et il me dit, on commence, c'était le week-end du 18 ou 20 mars 2020. Et donc, j'en avais parlé à mes colocs et je leur dis, bah, écoutez, trop bien, j'ai un week-end de 4 jours, je pars faire mon volontariat chez les chiens de traîneau et tout. Et donc là, elles me disent, ah, ben c'est super chouette pour toi, toi qui adores les chiens, profites-en bien et reviens-nous en forme dimanche, très gentil et avec de l'approbation. Et sachant que bah, moi, j'avais mon travail lundi qui commençait. Les centres commerciaux à Québec, avant que le gouvernement leur donne, ils ont fermé de eux-mêmes en laissant que les boutiques qui étaient indépendantes ouvertes pour que les gens puissent y aller mais qu'ils ne se regroupent pas dans les centres commerciaux. Mon job à moi, ils m'ont dit bah, vu qu'on ne peut pas ouvrir le magasin, on va faire de la vente par colis. Donc tu viendras et tu feras des colis. Donc je gardais mon job. Donc je pars faire mon week-end de chien de traîneau. Et forcément, ben, quand on fait du chien de traîneau, souvent on est dans des forêts isolées, il n'y avait pas de réseau. Moi, je passe un super week-end vraiment à plein les yeux. J'apprends à conduire les traîneaux, je m'occupe des chiens. C'était vraiment magnifique. Enfin, un endroit, un cadre au milieu d'une forêt, c'était vraiment beau. Et le dimanche, quand je reviens, parce que ça a été à 1h30 en bus de Québec, je reviens pour prendre mon bus. Et là, j'ai un message des colocs qui me disent « Écoute Mel, on a réfléchi, que ça soit pour ton volontariat avec les chiens ou le fait que tu travailles, ça va pas être possible pour nous parce que tu risques de nous ramener le coronavirus à la maison. Donc en fait, ben, on veut pas que tu reviennes à l'appartement. » D'accord. Comment ça, vous voulez pas que je revienne à l'appartement? Enfin, j'ai toutes mes affaires. Et surtout que nous, je crois qu'à ce moment-là, à Québec, on entendait parler du Covid, mais vraiment, c'était, il y avait rien. Ils parlaient pas du tout de faire un confinement ou quoi que ce soit. Et donc, en fait, je leur dis, bah, attendez, enfin, moi, il va falloir que je trouve une solution. Enfin, bien sûr, moi, bonne poire, ben oui, je vais partir, mais laissez-moi le temps de me retourner. Et donc là, elles me disent, ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre tes affaires sur le trottoir pour que tu viennes les récupérer et trouver un endroit où aller. Et je leur dis, mais vous touchez absolument pas mes affaires, en fait. Et je leur dis, et puis en plus, il est en train de neiger, enfin, vous allez pas mettre mes affaires dehors. Donc non, c'est hors de question que vous touchiez mes affaires. Je vais trouver une solution et je vais rentrer. Je verrai ça demain. Donc je me laisse un jour de plus, je demande au monsieur qui m'accueillait chez les chiens. Il me dit oui, tu peux rester le temps de trouver une solution parce que tout le monde était très choqué de la situation. J'appelle mon patron pour dire bah, je suis désolée, je pourrais pas être là demain parce qu'en fait je viens de me faire mettre dehors par mes colocs et j'ai plus de solution, j'ai nulle part où aller. Elles étaient deux, plus la maman, contre moi qui étais toute seule. Je me suis dit bon, bah, je fais pas le poids. Le lundi, j'appelle l'ambassade de France au Canada. Je me suis dit, peut-être qu'ils ont des appartements ou des chambres d'hôtel qui sont réservées aux ressortissants français. Et le temps que je me retourne, en fait, elle a été d'un bon conseil, mais elle m'a fait beaucoup plus paniquer que je ne l'étais. Ils m'ont dit, ben oui, c'est dérangeant ce qui vous arrive. Mais en fait, là, il faut voir plus loin parce que le coronavirus, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Vous risquez de perdre votre emploi, il n'y a pas de garantie que vous le conserviez. Et puis après, on ne sait pas si vous allez avoir une aide du gouvernement canadien pour l'argent. Et nous, on n'est pas sûr que le gouvernement français va aider les Français qui sont à l'étranger. Parce qu'à l'époque, on parlait que si hospitalisation, il devait y avoir, c'était 10 jours. Et donc, elle me dit, aujourd'hui, une nuit d'hospitalisation pour un cas de coronavirus, c'est 2 500 $. Donc, est-ce que vous avez 25 000 $ si vous devez vous faire hospitaliser? Non, je ne les ai pas. Enfin, ce n'était pas prévu dans mon budget. Elle me dit, bah, voilà, là, on est lundi. Et en fait, les derniers avions pour la France, c'est vendredi. Sachant qu'il y en a qui sont annulés, en fait, il faut prendre une place le plus vite pour rentrer, quoi. Là, c'est la panique parce que je me dis, donc il faut que je rentre en France, sachant que la France était déjà en confinement. Et enfin, j'ai nulle part. Moi, en France, j'ai que mes frères et sœurs. Enfin, ils ont voilà, des enfants ou quoi. Ou il y en a qui... Enfin, j'avais ma belle-sœur qui était enceinte. J'étais, ah, mais je vais aller où? Enfin, j'ai plus rien. J'ai plus rien, toute ma vie elle est ici et puis j'ai pas envie de partir. Enfin, vraiment, moi je suis bien ici et même si je dois partir de la coloc, j'ai pas envie de quitter Québec. Sauf que bah, l'ambassade maintient qu'il faut rentrer. Donc là, j'appelle mon frère. Donc lui, il était tard, hein. Moi on devait être en après-midi à Québec, lui il devait être le soir et je lui explique en pleurant toute l'histoire. Et là, il me dit, mais en fait, tu réfléchis pas, tu rentres. Il me dit, c'est hors de question que tu prennes des risques, que ça soit avec ta santé ou de te retrouver baladé d'hôtel en hôtel. Il me dit, tu rentres, quoi. Donc là, ben, je prends des billets d'avion pour le lendemain soir à Montréal. L'aéroport de Québec était fermé. Je me dis, ben, je vais aller chercher mes valises chez moi, enfin, dans mon appart. Sauf que ben, voilà, ça faisait 5 mois que j'étais installée. Sachant que nous, quand on a pris l'appart, il n'était pas meublé. Donc j'avais tout meublé, ma chambre, etc. Donc j'ai dit au coloc, ben, écoutez, je vais venir. Je vais faire mes valises et je partirai demain matin. Mais j'ai pas voulu leur dire que je rentrais en France. Et là, elle me dit, bah, c'est hors de question que tu passes une nuit dans l'appart. Moi, j'ai pas d'autre solution. Je suis chez moi et faut que je fasse mes valises. Donc, je peux pas partir avec toutes les valises non faites dans un hôtel ou quoi que ce soit. Et je leur dis, mais si vraiment vous avez peur, parce que je sentais que c'était vraiment, elles avaient peur du virus. Je leur dis, vous avez qu'à me mettre un masque et une paire de gants dans la boîte aux lettres. Comme ça, vu que la boîte aux lettres est en extérieur, je me protège, entre guillemets, pour rentrer dans l'appartement. Et vous, au pire, vous restez dans vos chambres et enfin, ça va bien se passer, quoi. Mais il faut qu'on trouve un terrain d'entente. Le temps que j'arrive et à l'appartement, il était 21h. Je trouve bien le masque et les gants dans la boîte aux lettres. Et je veux pour ouvrir la porte. Et là, la porte était fermée à clé. Déjà, c'est pas très intelligent parce que du coup, je dois attraper mes clés qui potentiellement peuvent être sales, entre guillemets. Je déverrouille la porte et en fait, quand je veux pour ouvrir la porte ne s'ouvre pas. Et en fait, je comprends qu'ils sont derrière en train de pousser pour pas que j'ouvre la porte.
Mais elles ont quel âge, ces nanas? C'est pas possible.
Non, mais c'est ça. Et la mère avec, c'est ça le pire. C'est censé temporiser et dire, ben, au pire, enfin, allez dans vos chambres, j'accueille Mel, et enfin, voilà. Et donc, j'ai été obligée d'appeler la police parce que, ben, il fallait que je rentre chez moi, en fait. Donc, j'appelle la police, je leur explique que, voilà, mes colocs veulent pas me laisser rentrer. La maman entend derrière la porte que j'appelle la police. Elle me dit, Mel, est-ce que je peux te parler à l'extérieur parce que ça sert à rien de faire des problèmes avec la police. Et je lui dis, ben, c'est quand même vous qui me laissez pas rentrer chez moi. Moi, j'ai pas d'autre solution, en fait, à aujourd'hui. Et donc, elle vient dehors et elle me dit, oui, en fait, il faut que tu comprennes, nous, on a peur que tu nous mettes le virus et tout. Je fais, mais déjà, de là où j'arrive, je peux pas le mettre, c'est des gens qui vivent en dehors de la ville. Et il y a plus de chances que vous, qui arrivez d'Europe où il y avait des cas de Covid, vous le ramenez à la maison. Donc, au bout d'un moment, faut arrêter d'être stupide et laissez-moi rentrer. Et elle me dit, on te laisse rentrer que si la personne qui vient te chercher demain matin, elle nous envoie un message pour nous confirmer que tu viens bien, que tu pars bien demain. Moi, bonne patte, j'appelle ma copine Laurie, je lui dis, ouais, est-ce que tu peux leur envoyer un message, s'il te plaît? Donc, elle envoie un message, oui, oui, je viens bien chercher Mélanie, c'est prévu demain matin à 9h et tout ça. Et donc, là, la maman me dit, bah, je vais te laisser rentrer. Donc là, les filles, elles étaient dans leur chambre, je les ai pas revues. La plus caractérielle, elle était en train de hurler dans sa chambre, je veux pas qu'elle rentre, je veux pas qu'elle rentre. Mais vraiment, c'est un sketch, hein. Donc, je rentre et dans tout l'appartement, ils avaient bâché, comme quand on veut peindre, pour pas que je contamine le canapé, les chaises. Voilà. Et donc, tout était bâché. Et c'était vraiment, elles étaient vraiment dans un délire. En 4 jours, en fait, elles ont vraiment pété un plomb par rapport au Covid. Et en fait, nous, quand on rentrait, donc il y avait la salle principale où il y avait le canapé. Et après, il y avait un couloir qui desservait les chambres. Et donc, c'était un couloir qui était vraiment pas large, en fait. Et donc, moi, ma chambre, c'était la première. Donc, je rentre dans ma chambre. Et là, je vois toutes mes affaires. Et donc, de suite, je m'attaque parce qu'il est 22h avec tout ça. J'ai pas mangé ni rien. Donc, je me dis, bon, vite, je m'attaque à faire les valises. Il faut que je trie. Donc, je fais 3 piles. Une pile que je vais donner, des affaires que je vais donner. Une pile que j'amène et une pile que je vais faire garder par ma copine Laurie. Parce que ben, je reviendrai. Après tout ça, je reviendrai. Donc, je fais mon tri, etc. Et il est 1h du matin. Et je me dis, ben, je vais aller manger un bout. Ben, j'ai faim. Il faut que j'aille aux toilettes, etc. Et sauf qu'à ce moment-là, quand j'ouvre ma porte de chambre, devant ma porte de chambre, il y a le matelas avec la maman qui dort. Et donc, je ne peux pas sortir de ma porte de chambre sans marcher sur la maman.
Enfin, tu peux l'enjamber?
Non. Le couloir, il faisait juste la largeur de son matelas. Et donc, en fait, il fallait vraiment que je lui marche dessus. Parce que ben, de sa longueur, en fait, je ne pouvais pas l'enjamber. Donc là, je me suis dit, mais comment je fais? Donc j'arrive, je dis, excusez-moi, je veux aller à la salle de bain. Et elle me dit, ah non, mais tu ne sors pas de ta chambre. Et elle me reclaque ma porte au nez, en fait. Et donc là, en fait, je me rends compte que je suis séquestrée dans ma chambre. Donc, ben, pas le droit de manger, pas de toilette, pas de douche, du coup. Rien. J'avais un bocal, un pot de fleurs dans ma chambre. J'ai dû faire pipi dedans parce que ben, j'avais pas le choix. Et sur le coup, j'étais vraiment mais tellement en colère que je me suis dit « Ah, je vais leur répandre mon pipi partout !» Parce que vraiment, j'étais en colère de vivre ça. Et après, je me suis dit « En fait, mais elle cherche pas à te venger, en fait. Enfin, tu feras des choses procédurières ou quoi que ce soit, mais ça, c'est quelque chose qui va même pas vraiment les déranger. Donc, juste concentre-toi sur toi. Il faut que tu te débrouilles à vite partir de là. » Donc en fait, je dors pratiquement pas de la nuit et le lendemain, ma copine vient me chercher à 9h et donc là, on charge. Donc les filles étaient toujours dans leur chambre, je ne les ai pas croisées. Et il y avait la maman qui était assise devant la cuisine, en fait, pour pas que j'accède à la cuisine. Elle était sur une chaise à la porte de la cuisine et pour pas que j'y accède, elle me dit « Ah, tu sais, Mélanie, je voulais te dire, à titre personnel, je m'excuse de ce qu'on vient de te faire vivre, mais il faut que tu comprennes que c'était pour protéger ma fille. » Et là, moi, je la regarde dans les yeux et je dis, en fait, vos excuses, je les entends, mais je les accepte absolument pas. Et je dis, surtout de la part d'une maman, je dis, moi, vous connaissez ma situation personnelle. Moi, j'ai perdu ma maman, donc elle sait que j'ai plus de parents. Et je dis, et je vais vous oser me faire vivre ça. Enfin, vraiment, c'est très grave ce qui vient de se passer. Je dis, mais moi, ce que je vous souhaite, c'est qu'un jour, votre fille, elle ait les mêmes problèmes à l'autre bout du monde et je vous jure que vous m'entendrez rire dans le fond de vos oreilles. Et je suis partie là-dessus. Et donc, en fait, là, tout s'est enchaîné parce que moi, j'avais mon avion le soir à Montréal, mais il n'y avait plus beaucoup de transport. Donc, j'avais un bus à 10h. Donc, ma copine Laurie me dépose au bus à 10h. On prend des photos des affaires que j'ai données à des associations. Enfin, vraiment, on constitue un peu un dossier. Et moi, quand je monte dans le bus qui part à Montréal, j'appelle la police, en fait, pour leur dire « Je veux faire un dépôt de plainte. J'ai 6 heures d'attente à Montréal. Donc, dites-moi où c'est que je dois aller. Je veux porter plainte parce que, voilà, je viens d'être séquestrée pendant la nuit. » plus la maltraitance, etc. Enfin, c'est très grave ce qui vient de se passer. Et en fait, le policier que j'ai au téléphone m'explique qu'au Canada, en fait, les plaintes se font sur la ville où on réside. Et donc, je ne peux pas faire un dépôt de plainte à Montréal pour une affaire qui s'est passée à Québec. Et il me dit, t'as un an pour porter plainte, donc t'en fais pas, tu pourras faire ça plus tard. Déjà, prends soin de toi, rentre en France, etc. L'arrivée à l'aéroport de Montréal, tout était fermé. Les gens, il y avait une file longue pour le vol Air Transat. Les gens pleuraient dans la file. Enfin, on était tous dévastés. Et on est rentrés, en fait, dans l'avion. Il y avait que... En fait, c'était que des personnes à des hublots. Tout l'avion était vide. Et on était juste un de chaque côté du hublot. Ils séparaient les gens. Et puis, enfin, dans l'avion, on était peut-être une centaine à peine, quoi. Enfin, il y avait vraiment personne. Pour le coup, c'était pas mal. Mais j'avais une rangée de 3 fauteuils pour dormir. Donc, j'ai dormi tout le long et j'ai fait l'erreur de débutant de mettre mon passeport sur le siège qui est devant dans le petit filet. Et sauf que quand on a atterri à Paris, je me suis dit « Ah, il est 8h30, il y a un train à 10h pour Bordeaux, je peux l'avoir à Montparnasse depuis Charles de Gaulle. » C'est improbable, hein. Mais dans ma tête, c'était probable. Et donc là, je cours dans l'avion en me disant « Je vais être la première à récupérer mon bagage » et je file à Montparnasse. Et j'ai oublié le passeport. J'arrive à la police et ils me disent « Le passeport ». Je dis « Je l'ai pas, j'ai la pièce d'identité ». Ils me disent « C'est bon ». Première erreur, les gars. Enfin, je suis montée dans l'avion avec un passeport. Demandez-moi un passeport. Au pire, envoyez-moi le chercher. Parce que du coup, ils m'ont laissé passer sans passeport. J'attends les bagages, c'était extrêmement long. Donc là, je vois que je loupe mon train pour Bordeaux et je me rends compte que j'ai pas de passeport. Donc là, je retourne les voir. Excusez-moi, j'ai le passeport dans l'avion. Enfin, il faut vraiment que je le récupère. Et ils me disent, c'est trop tard, vous avez pas accès à l'avion, en fait. Donc, il faudra avoir avec la compagnie dans les objets trouvés. Plus de passeport. Et de là, ils nous expliquent qu'il y a plus de navettes pour aller dans les... Enfin, il y a plus de métro, il y a plus rien. Donc, qu'ils affrètent un bus de Charles de Gaulle jusqu'aux différentes gares. On fera des stops dans les différentes gares de Paris et ils nous déposeront dans les gares. Et donc là, on arrive dans un Paris vide. C'était horrible. Vraiment, c'était vraiment mais Walking Dead, quoi. On était là à tout moment, il y a des zombies qui vont sortir. On a fait la place de l'Étoile à Paris, pour ceux qui connaissent, qui est tout le temps pleine de monde, vide de chez vide. Nous, moi, je suis partie de Québec la veille. Même si les gens, ils commençaient plus ou moins à faire attention, voilà, on vivait, quoi. Et là, on arrive vraiment, il n'y a plus de vie, il n'y a plus d'humain. C'était horrible. Et j'ai la bonne idée de m'endormir encore dans ce bus. Et on me dépose après à la gare Montparnasse. Donc, je me réveille, je prends mon sac à dos, ma valise. Et sur mon téléphone, je reçois une notification de la banque N26, 1,30€ le café à Bercy. Je suis pas à Bercy, je suis à Montparnasse. Et en fait, le mec à côté de moi m'a volé ma carte bancaire. Donc je les ai cumulés, c'était vraiment le retour de l'horreur. Bon, après, j'ai fait mon confinement en France, qui a été très dur, parce que le choc du retour, le fait de ne pas pouvoir sortir de chez soi, psychologiquement, ça a été plus tout ce qui m'était arrivé. Donc, ça revenait en cauchemar, etc. Donc, heureusement, j'ai pu appeler au Canada. Il y avait des cellules psychologiques qui s'étaient ouvertes. Donc, je les ai contactées un petit peu pour parler de tout ça. Et en fait, il y a une des thérapeutes qui m'a dit « Je comprends que vous ne vouliez pas revenir tout de suite au Canada ». Mais je pense que ça serait bien de venir faire la paix avec Québec. Ben, c'est pas Québec qui vous a mis dehors, c'est vraiment ces colocs-là, en fait. Donc, ça serait bien de penser un jour à revenir faire la paix à Québec.
Il serait bon de partir faire la paix avec le Québec. Eh bien, c'est ce que Mélanie nous raconte dans le deuxième volet de son histoire, sorti ce matin. À tout de suite.
Vous venez d'écouter un podcast réalisé par moi-même, Anne-Fleur Andrely, mixé et habillé par Alice Krief et produit par French Morning. French Expat n'est pas le seul podcast de French Morning. Pour retrouver tous les podcasts du groupe, rendez-vous sur frenchmorning.com/podcast. À bientôt.